Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Tu ne supportes pas le péché. Tu ne veux pas voir la rébellion. Oh Jésus, 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 tu es saint, nous voulons te célébrer, Seigneur, te chanter, te louer, t'adorer. Tu as fait tant pour nous, Seigneur Jésus. Tu as fait tant pour nous. Tu es saint. Oh Jésus, tu es saint. Merci, merci. Il y a un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 22, et au verset 3, où il est dit: il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Si la parole de Dieu ne disait rien que ces paroles, que ces mots, il n'y aura plus d'anathème, quand elle veut parler du futur, quand elle veut parler des choses merveilleuses qui s'annoncent et qui viennent sur cette terre, de ce futur proche, sur cette nouvelle terre, nous aurions une image déjà, une image merveilleuse, merveilleuse de ce futur que Dieu a préparé. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de malédiction. Ce seraient déjà des paroles d'espoir, des paroles merveilleuses. Ces quelques mots nous disent beaucoup. Plus d'anathème, plus de malédiction. La malédiction, l'anathème, c'est la conséquence du péché, de la rébellion de l'homme. C'est la conséquence de sa désobéissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses commandements. Chaque fois que nous désobéissons aux commandements de Dieu, chaque fois que nous violons les commandements de Dieu, eh bien, nous attirons sur nous une punition, sur nous un anathème, une malédiction. Autrement dit, nous nous maudissons nous-mêmes. Déjà depuis plusieurs dimanches, déjà deux dimanches, nous parlons de cette malédiction et de cette conséquence sur les hommes. Les hommes et sur cette terre et notre environnement et notre univers. Et nous parlons de l'œuvre de Christ pour nous délivrer de cette chaîne, de cet anathème, de ces choses qui nous détruisent. C'est un point capital d'une grande importance pour l'homme et pour la terre entière. Si c'était la seule parole ou la seule révélation concernant notre futur, concernant ce que Dieu a préparé pour ceux qui se confient en lui, ces paroles seraient pleines d'espoir, de réconfort, de joie, pleines de promesses merveilleuses. Il n'y aura plus d'anathème, un point final. Oui, mais il n'y a pas de point final. Dieu, dans sa grâce, nous dit bien plus que cela. Elle nous dit bien plus que cela. Ces paroles sont pour nous d'une grande importance. Une déclaration clé. Lisons ce passage donc dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 5. Nous lirons ceci. Il n'y aura plus d'anathème. Mais Dieu ne s'arrête pas là dans les révélations qu'il nous donne quant au futur. Il ne s'arrête pas là quant à la bonne nouvelle qu'il nous annonce. Déjà cette phrase, comme je l'ai dit, est une bonne nouvelle. Mais encore, il est ajouté, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. Merci Seigneur, plus besoin de la SNEL. Ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et la panne, pas de panne, ô Jésus. Et ils régneront au siècle des siècles. Et ils régneront au siècle des siècles. Ce ne sera pas la lumière ténébreuse et scabreuse des hommes. Non, une lumière éclatante d'une grande gloire. Oh, merci Seigneur, tu ne t'es pas arrêté à ces paroles qui expriment quelque chose de merveilleux, quelque chose de libérateur. Il n'y aura plus d'anathème. Mais encore, tu nous expliques ce qui va se passer. Autrement dit, l'enlèvement de l'anathème, l'enlèvement de la malédiction, engendra des conséquences glorieuses et merveilleuses. Car si le péché a amené comme conséquence la mort sous toutes sortes d'aspects, des conséquences sous lesquelles nous soupirons encore, nous avons l'espoir d'être libérés, libérés pour toujours de l'anathème. Le monde entier est affaibli par la mort qui fait des ravages à tous les milieux, à tous les niveaux, dans tous les milieux, depuis des siècles. Regardez tous les nombreux cimetières sur cette terre. L'usure est un processus de mort. Tout s'use. Tout ce que l'homme fabrique s'use. La plus belle voiture s'use et casse. Le plus beau vêtement s'use et n'est bon qu'à être jeté. Tout s'use. L'usure est un processus de mort. Le vieillissement de l'homme et de la matière est un processus de mort. Tout vieillit. Rien ne reste à l'état le meilleur de la vie. L'homme commence à vieillir à partir de 20 ans, 20 et 25 ans. Jusque-là, c'est la jeunesse, c'est la vie qui se développe. C'est la beauté de la personne, la beauté du corps. La beauté entière de la personne, moralement, physiquement. Et c'est ce que Satan cherche à détruire dans la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ont acquis une beauté naturelle, mais cette beauté est souillée dès l'enfance déjà à cause du péché. Et s'ils ne sont pas tenus en discipline à la maison pour leur apprendre ce qui est bien, faire la différence entre le bien et le mal, et sinon pas l'exemple digne d'être suivi, vous allez voir la laideur qui va se caractériser par des actes terribles qui détruisent l'âme et le corps sur ces jeunes qui ne sont pas encore arrivés à l'état de vieillesse qui commence à partir de 20-25 ans. L'usure est un processus de mort. Le vieillissement de l'homme est de la matière, quelle que soit cette matière, est un processus de mort. L'accident, qui par définition n'est jamais prévu ni planifié, est aussi un processus de mort. Croyez-moi, sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus d'accident, quel qu'il soit. C'est un processus de mort, c'est-à-dire de malédiction. La maladie qui vous attaque de façon sournoise est un processus de mort qui marque l'humanité. La fatigue est aussi un processus de mort. Les actions folles des hommes dans tous leurs abus, abus de boissons, abus de nourriture, là aussi, abus de drogue, abus du sexe, abus de toutes les jouissances que l'on peut se procurer pour satisfaire la chair, tout abus amène la mort, quel que soit cet abus. Abus dans le travail, abus dans le repos et la paresse, abus de tout genre, abus dans les paroles, abus dans les actions, quelles que soient ces actions. La parole de Dieu nous exhorte à garder, à avoir l'équilibre. Avoir l'équilibre, ce n'est pas péché que de se marier et de vivre avec sa femme et son mari et avoir des enfants. Dieu l'a voulu ainsi. Mais l'abus est le dérèglement dans les relations entre hommes et femmes. Et là, c'est le péché. Ce n'est pas péché de manger normalement pour vivre, mais c'est péché. C'est péché d'être passionné pour la nourriture et de devenir des gloutons. Du reste, les gloutons, comme les ivrognes, n'hériteront pas du royaume des cieux, est-il dit dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voyons que tout abus, tout déséquilibre provoque le péché, l'abus dans les paroles insensées, les paroles que l'on crache au visage de ses frères ou de ses sœurs, est un péché, alors que la parole normalement dite avec douceur et amour n'est pas péché. Frères et sœurs, combien de fois nous nous laissons prendre dans le piège de notre caractère et nous péchons vis-à-vis de nos semblables avec des vocabulaires et des suppositions et des paroles blessantes. Et là, cela devient péché. La parole de Dieu nous exhorte combien de fois à être sobre, la sobriété dans les paroles, la sobriété dans ce que nous buvons et nous mangeons, la sobriété dans nos relations avec nos semblables, la sobriété avec l'argent. Si nous sommes riches, ce n'est pas pour faire un étalage abusif de cette richesse, mais c'est pour en faire bénéficier l'œuvre de Dieu à quelque niveau que ce soit. Frères, sœurs, la sobriété, voilà le message de Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre les paroles équilibrées et sensées. Mais tout ce qui dépasse la sobriété et qui devient un abus devient péché. Et là, c'est la destruction. Oui, nous nous détruisons. Nous nous détruisons, nous, volontairement ou involontairement, par des actions folles, par des paroles folles, par des choses folles qui sont une marque de la mort et de la malédiction sur nous, sur l'humanité. Et combien d'enfants de Dieu ont encore besoin d'apprendre la sobriété. La sobriété, oui, l'équilibre, l'usage de tout, sans faire de quoi que ce soit quelque chose qui vous pousse à pécher. Voilà ce que cela veut dire. L'abus des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes qui réfléchissent avant d'agir et qui n'ont pas de paroles folles ou d'actions folles. Et là, nous avons un processus de mort spirituelle et de mort physique. Quand Dieu a dit au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse 2, 17, lorsqu'il a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il avertissait l'homme. Manger, c'est bien, mais qu'est-ce que tu manges ? Il y a des choses que tu n'es pas autorisé à manger. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Voilà. Et après la chute, lorsque Dieu a rétabli l'homme dans cette nouvelle entité dans laquelle il était, dans le péché, il lui a dit, tu peux manger de tout. Tu peux tuer l'animal et en manger la chair, mais tu en répandras le sang. Tu ne mangeras pas le sang, car le sang, c'est la vie. La vie est dans le sang. Tu répandras le sang. Il avertissait l'homme que s'il désobéissait, il se maudira lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a maudit l'homme, c'est l'homme qui s'est maudit lui-même. Dieu avait averti, si tu en manges, tu mourras. Voilà, tu mourras, c'est la malédiction. Mais l'homme a mangé, et à cause de cela, il est mort. Il en est de même pour chacun de nous aujourd'hui. Chaque égarement que nous faisons en désobéissance à la parole de Dieu, eh bien, chaque égarement, chaque déséquilibre dans notre vie, déséquilibre à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau de nos actions, quelles que soient ces actions ou de nos pensées, frères et sœurs, nous nous maudissons nous-mêmes. Nous nous faisons du mal, voilà. Nous nous faisons du mal. Lorsque nous avons notre antagonisme devant nous, quelqu'un avec lequel nous sommes en problème et que nous sortons ces paroles que nous ne devrions jamais sortir lorsque nous sommes des enfants de Dieu, eh bien, frères et sœurs, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Aux autres, bien sûr, pour eux, ce n'est pas bon, c'est un mauvais témoignage, mais à nous-mêmes, oh frères, ne nous maudissons pas nous-mêmes. Ayons les paroles et l'attitude de Jésus-Christ à tout moment dans notre vie et demandons à Dieu qu'il prenne en main notre caractère et que ce caractère soit brisé au pied de la croix. À cause de cela, non seulement Adam, mais son environnement fut maudit avec la terre entière. L'homme ne pouvait pas, alors qu'il s'était maudit lui-même, jouir d'une terre qui n'était pas maudite, c'est-à-dire une terre avec toutes les bénédictions que Dieu y avait mises. Non, il y a toujours des conséquences à nos égarements. Et c'est ça que nous devons savoir, des conséquences à nos égarements. Quand nous venons à Jésus-Christ, il nous sauve par grâce et par la foi. Mais il n'enlève pas toujours les conséquences de l'égarement de notre vie de péché dans laquelle nous étions autrefois. Nous demandons au Seigneur, guéris-moi. Mais cette maladie que tu as vient de ta désobéissance et des violations des commandements de Dieu. Et le Seigneur te sauve. Amen. Il lave tes péchés, gloire à Dieu. Il inscrit ton nom dans le livre de vie, merveilleux. Mais ces conséquences dans ton corps de chair qui retournera à la poussière ne sont pas toujours enlevées et ôtées. Et peut-être le restant de tes jours, tu vas souffrir à cause de ces années de folie. Et si Dieu le juge nécessaire, il va peut-être te guérir et te rétablir pour un but. Croyez-moi, la guérison divine n'est pas donnée par fantaisie. Elle est donnée toujours pour un but précis, pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour faire plaisir au royaume des cieux. Cette guérison qu'il veut nous donner et que nous réclamons, le Seigneur veut nous la donner, oui, pour un but. Mais si c'est pour nous-mêmes, pour un but égoïste, afin que je me porte bien et que je puisse bien travailler et gagner mon argent et que tout est tourné sur toi-même, eh bien, mon frère, il faut attendre peut-être un peu plus longtemps. Nous sommes sauvés pour servir. Nous avons un service à fournir pour le royaume des cieux. Voilà, et c'est ça que nous devons savoir. Et si nous ne sommes pas prêts à donner ce service pour le royaume des cieux, le Seigneur va regarder à deux fois, ou trois fois, ou dix fois, avant de nous guérir. À cause de cela, non seulement lui, mais son environnement a été maudit avec la terre entière, les conséquences. Ces paroles se trouvent dans la dernière page de la Bible. Oui, c'est la toute dernière page de la Bible, au dernier chapitre. Il n'y aura plus d'anathème. Alléluia. Autrement dit, Dieu a ouvert une parenthèse. Là, à la chute, elle est ouverte. Malédiction. Là, à la fin du temps, elle est fermée. Il n'y aura plus d'anathème. Oh Jésus. Je languis pour ce jour. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Le jour vient où nous saurons ce que veulent dire ces paroles. Car nous entrerons enfin dans cette entité libre de tout joug. Nous subissons encore, nous qui avons cru, les conséquences du péché. J'ai cru, tu as cru, mais nous subissons encore. Nous sommes sauvés, d'accord. Nous sommes pardonnés, merci Seigneur. Nos péchés sont jetés loin derrière nous. Gloire à Dieu. Dieu ne s'en souvient plus. Merci Père. Nous sommes nés de nouveau. Oui, mais nous sommes encore dans un milieu et dans un corps marqué par le péché et qui est sous la malédiction. Nous sommes dans un corps qui était marqué par le péché et dans un milieu qui est marqué par la malédiction. Nous qui sommes sauvés, nous vieillissons comme les autres, pas vrai? Et puis, la maladie nous touche aussi, malheureusement. Elle nous touche aussi. La fatigue est là à nous qui sommes sauvés, n'est-ce pas? Oh oui! Et comme tous les hommes, nous quitterons ce corps de chair que l'on mettra dans un trou dans le sol. N'est-il pas vrai? Nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Mais nous sommes encore sous un joug, amenés par le péché. Notre homme intérieur a été transformé et vivra éternellement. Gloire à Dieu. Mais notre homme extérieur, comme nous l'avons déjà dit et lu dans la parole de Dieu et ici un certain dimanche, notre homme extérieur n'est pas encore libéré, c'est-à-dire cet homme de chair. Dans Genèse 3, 19, il est écrit là, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, conséquence du péché. » Dans Genèse 5, 5, il est dit là, la durée de sa vie, c'est-à-dire de la vie d'Adam, fut de 930 ans, puis il mourut. Mais notre vieil homme, né de nouveau, le véritable, nous, se renouvelle en Christ et demeure éternellement. Notre homme naturel, extérieur, l'homme Adam, extérieur, limité, faible, l'homme naturel, vulnérable, passager, disparaîtra. Et il disparaîtra depuis. Et il a disparu depuis le temps d'Adam. Ça n'a pas changé. Puis il mourut. Ça n'a pas changé depuis Adam. Puis il mourut. Les années de notre vie ont été grandement raccourci par la volonté de Dieu. Oh, Dieu est sage. Combien je suis content que des hommes comme Hitler, comme Napoléon, pour ne parler que d'eux, de ces deux hommes de l'histoire, sont morts. S'ils avaient vécu 930 ans, quel malheur auraient-ils pu occasionner au monde? Pour ne parler que d'eux. Et vous connaissez dans votre société des hommes méchants, injustes, sauvages, quoiqu'ayant des bons diplômes, égoïstes. Gloire à Dieu de ce qu'ils ne vont pas vivre 930 ans. Puis il mourut. Ah ! Les années de notre vie ont été grandement raccourcies par Dieu. Et nous le voyons à travers la Bible, comme petit à petit les années se sont raccourcies et Dieu a dit, non, les années de l'homme ne seront que de 120 ans. Après ça, il est dit que si quelqu'un arrive à 80 ans, il sera fort. Ben, il y en a ici qui ont 80 ans, hein. Et ils sont forts, gloire à Dieu. Puis, il mourut. Autrement dit, nous sommes délivrés de la malédiction en Jésus-Christ. Notre homme intérieur est transformé, changé, gloire à Dieu. Mais, il y a encore cette enveloppe terrestre sur une terre qui a été maudite. Après la chute d'Adam, Dieu lui dit, dans Genèse 3, 17, « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras la nourriture, ta nourriture tous les jours de ta vie. » Quand la malédiction sera enlevée, le sol ne sera plus le sujet de peine, de sueur, de souffrance pour l'homme. La terre ne produira plus des ronces, des épines, des broussailles. Et quand il est parlé d'épines, de chardons, de ronces, de broussailles, comprenons par là tous les nuisibles, les parasites, les insectes, les pucerons, les vermines de tout genre qui infestent tout ce que l'homme plante avec peine. Une malédiction. L'homme utilise des pesticides qui l'empoisonnent lui-même. On veut produire plus. Les insectes mangent plus de la moitié des récoltes. On invente des produits chimiques qu'on jette sur les champs. Mais on s'aperçoit à plus ou moins long terme qu'on pollue. On pollue l'eau que nous buvons. Nous polluons l'eau à tel point qu'on ne peut même pas manger les poissons de ces rivières. On s'empoisonne soi-même et on empoisonne son environnement. Nous modifions la génétique des plantes pour qu'elles résistent à l'agression des parasites de tout genre. Et en faisant ceci, nous nous faisons du mal et nous nous détruisons nous-mêmes. L'anathème sera ôté. Un jour, il n'y aura plus d'anathème. L'homme est intelligent, mais l'homme ne sait pas tout. On parle d'écologie aujourd'hui plus que jamais. On s'aperçoit des sottises qu'on a faites avec nos produits chimiques. On veut revenir à des cultures plus naturelles. Oh, gloire à Dieu, ici au Congo, mes amis, vous mangez naturellement parlant. C'est magnifique, continuez de la sorte. C'est la santé. Mais tous ces produits, toutes ces alimentations qui ont passé par des processus de tout genre, à travers des machines automatiques qu'on met dans des boîtes, qu'on met dans des bocaux, qu'on réduit en poudre et qu'on utilise ainsi. Faites attention! Et tous ces produits chimiques qu'on met sur les champs, la récolte est deux fois plus grande, deux fois plus importante. On tape des mains parce qu'on va faire, plus d'argent. Mais on se détruit les uns les autres. Et on s'étonne du cancer qui augmente de plus en plus. On s'étonne du diabète qui atteint les enfants déjà en bas âge. On s'étonne de l'asthme et que ces enfants déjà tout jeunes n'arrivent plus à respirer. Car tout est pollué par les manipulations des hommes. La terre est maudite. Il n'y aura plus d'anathème. L'anathème sera ôté. Plus jamais nous ne retournerons dans le sol. Plus jamais nous ne retournerons dans le sol d'où nous avons été pris, avalés, que nous étions par la mort physique. Terminé avec ce processus. Nous sommes gérants des biens que Dieu a mis à notre disposition et nous en avons abusé. Notre bien-être est inséparable du bien-être de la terre. Notre destinée est inséparable de celle de la terre. C'est pourquoi la malédiction qui afflige le genre humain exige que la terre soit aussi maudite. Par Christ, la terre connaîtra. La délivrance, ce n'est pas un slogan qu'on lance comme cela à la tête de tout le monde et que par des manipulations plus ou moins, j'allais dire occultes, des manipulations de persuasion, de je ne sais quoi, qui troublent les âmes au plus haut point. Non, la délivrance, mes frères, elle est acquise par Christ. Que pouvons-nous faire sinon de venir à la croix, de confesser nos péchés, et il nous délivrera. Il nous délivrera des conséquences des manipulations occultes de nos parents. Il nous délivrera des conséquences de nos propres manipulations occultes. Il nous délivrera de la chaîne qui nous retient, attachés au péché. Oh, pour cela, ce n'est pas un homme particulier qui peut vous la donner, cette délivrance. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un manipulateur d'une façon ou d'une autre. Non, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Lorsque nous venons humblement au pied de la croix et que nous confessons nos péchés, il y a délivrance. Christ apporte la délivrance. Jésus nous délivre de la malédiction. Romains 8, 2 nous dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cette loi peut être dite en quelques mots. La loi du péché et de la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché est la mort. Voilà. Le salaire du péché est la mort. Ce qui est dû à l'homme à cause du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est un dû. Mais cela ne s'arrête pas là. Oh, si ça s'arrêtait là, il n'y aurait pas d'espoir pour aucun d'entre nous. Mais le verset continue. Mais, amen, le don de Dieu, gloire au Seigneur, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don de Dieu, oui, il n'y aura plus d'anathème. Christ est le dernier Adam qui va enlever le mal et le dommage provoqué par le premier Adam. 1 Corinthiens 15, 2. Là, il est écrit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » 1 Corinthiens 15, 45. Il est dit, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Un esprit qui donne la vie. Voilà ce que cela veut dire. Un esprit qui donne la vie. Oh, merci Jésus. Oh, la victoire de la croix. La victoire de la croix. La victoire de l'œuvre. Par la croix, la mort et la résurrection de Christ. Par cette mort et cette résurrection, Dieu a ouvert un chemin, non seulement pour restaurer son plan vis-à-vis de cette terre maudite, vis-à-vis de cette terre pour laquelle il avait un plan original et merveilleux en faveur de l'humanité, mais aussi pour l'étendre, ce plan, pour le perfectionner, ce plan, dans nos corps nouveaux, ressuscités, nous habiterons, selon ce plan, sur une terre nouvelle. Nous en parlons plusieurs fois, je le répète encore, merci Seigneur, car ces jours arrivent. Et sur une terre nouvelle, entièrement libre de tout anathème, libérée, de tout péché, libérer des activités humaines, qui sont des activités pécheresses, Mais désormais, nous aurons des activités qui nous conduiront dans une prospérité sans limite, dans une culture sans pareil. Vous parlez de prospérité, d'accord. Moi, j'en parle aussi sur cette terre nouvelle, car là, il n'y aura plus de péché. À cause du péché, toute culture humaine est décadente. Avant la chute, tout était harmonie et la terre produisait sans grande intervention de l'homme. L'homme pouvait s'adonner à des œuvres créatrices de tout genre, selon les capacités données par Dieu, sans aucune déviation dans le mal, pour glorifier le grand Dieu créateur. Dieu a donné à l'homme une possibilité de créer. Et dans notre société, malgré le péché, nous avons gardé cette possibilité de créer, toutes sortes d'outils, toutes sortes de choses. Nous ne pouvons pas donner la vie à ce que nous créons, mais nous pouvons lui donner le mouvement, n'est-ce pas? À tout ce que nous créons, Dieu nous a donné une capacité, mais cette capacité a été détournée par le péché. Après la chute, les générations ont vécu et sont mortes les unes après les autres, en passant des années de peine, des années de douleur, des années de souffrance pour obtenir une place sous le soleil, pour leur nourriture, pour leur abri, pour leur protection des voleurs, des bandits, des guerres. Et ils sont retournés à la poussière après combien de larmes et de souffrances. Un tourment continuel, avec peu de joie, souvent esclaves de maîtres, despotes et méchants, Mais le jour vient où nous serons délivrés de l'anathème. Cette évidence de la malédiction se fait par étapes. Cette délivrance se fait par étapes. Il y a d'abord le premier pas, qui est la repentance, qui est une action volontaire de l'homme, de l'individu, qui apporte à Dieu son cœur et dit « Seigneur, j'ai péché, sauve-moi ». Et quand l'homme délibérément confesse son péché et vient ainsi à Dieu, Dieu intervient. Un miracle s'accomplit. Cet homme est né de nouveau. Il rentre dans une nouvelle dimension, une nouvelle vie. Ceci commence par une volonté personnelle et une action personnelle, bien sûr, instiguée par le Saint-Esprit qui ne veut pas notre perte, mais qui veut notre salut. Et c'est ainsi que cet homme est né de nouveau. Désormais, pour lui, il doit marcher dans l'obéissance au commandement du Dieu vivant, suivre une vie nouvelle, vivre cette vie dans la sanctification, dans la persévérance, dans le bien, dans la justice, difficile, combat, mais avec le secours de Dieu. Ensuite, vient la résurrection de ce corps. Voilà comment ceci se passe. D'abord, cette délivrance dépend de nous. Repentance, humiliation, nouvelle naissance, marche dans la sanctification, avec l'espérance de la vie éternelle. Alors, en plus de cela, un nouveau corps sur une nouvelle terre. Cette délivrance de la malédiction est acquise, a été acquise à un grand prix. Dans Galates 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » La loi de Dieu nous fait voir combien nous sommes tombés loin de lui dans le péché. Elle nous révèle les exigences du Dieu saint et notre état désespéré et notre incapacité et impossibilité de nous sauver nous-mêmes. La loi nous révèle tout cela. Jésus a pris sur lui cette malédiction qui vient à travers la connaissance de la volonté de Dieu par la loi. Jésus a pris sur lui la malédiction du péché et il a remporté la victoire sur le péché et sur la mort par sa résurrection. Romains 8, 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire toute la création. Libérée, libérée de la corruption, libérée de l'usure, libérée de la vieillesse, libérée de la fatigue, libérée de toutes ces exigences que la malédiction a mises sur nous, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Libres! Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas véritablement libres. Nous devons dormir la nuit, le soir. Et si nous ne dormons pas, ça ne va pas. Nous devons manger, c'est une obligation. C'est un joug, entre guillemets, oui. Nous devons nous déplacer, nous chercher des moyens, chercher de l'argent, chercher les vêtements, chercher tout cela. Notre liberté est une liberté toute théorique, mais quand on y réfléchit, nous sommes liés par des obligations, si nous les enfreignons, nous supprimons nos années de vie sur la terre. Voilà. Mais le jour vient où nous serons entièrement libérés. Jésus est venu non seulement pour sauver nos esprits, qui sont éternels, de la damnation, ce qui aurait été une victoire partielle. Il est venu pour sauver toute sa création de la mort, c'est-à-dire nos corps, la terre et l'humanité, l'univers, non seulement la terre, mais l'univers. La victoire de Christ sur la malédiction n'est que partielle. La mort sera complètement détruite, rendue nulle, éliminée. Cette victoire de Christ, virtuellement, elle est entière. Pratiquement, elle n'est pas encore entière. Voilà. Mais par la foi, nous sommes libérés de la mort. Et nous avons la vie éternelle en nous. Ô Jésus! La mort sera complètement détruite, rendue nulle, éliminée. 1 Corinthiens 15, 55-56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oui, parce que la loi nous révèle ce qu'est le péché. Il détruit la malédiction, non seulement moralement, en tant que péché, mais aussi psychologiquement, en tant que tristesse et abattement, mais aussi physiquement, en tant qu'épine et chardon dans le sol, avec le monde des insectes nuisibles, des virus, des microbes et vermines de tout genre. Il règnera sur un univers nouveau, où le péché aura disparu, toute épine ou autre nuisible auront disparu. Il n'y aura ni maladie, ni mort. Il a payé le prix à la croix. Oh, chantez et louez pour ce qui vient pour nous. Merci, Jésus. Oh, Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette perspective glorieuse qui est devant nous. La perspective glorieuse du royaume des cieux et de la libération complète, complète des chaînes, des limitations. Oh, mon Dieu, la libération complète, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Ceci est rendu possible à cause de Golgotha. Et Seigneur, maintenant, nous nous tenons autour de cette table, ce pain qui représente ton corps, cette coupe qui représente, Seigneur, ton sang, c'est-à-dire ta vie. Oh, Jésus, Jésus, merci, mon Dieu. Dans la nuit où tu fus livré, Jésus, tu pris du pain. Tu pris du pain, tu le leur donnas, après l'avoir rompu. Et tu leur dis, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ce corps de chair que tu as voulu avoir tel que le nôtre. Seigneur, tu as accepté qu'il soit brisé dans des souffrances atroces. Ô mon Dieu, pour nous acquérir un nouveau corps tel que tu as eu après la résurrection. Et dans tes meurtrissures, il y a la guérison. De même, Seigneur, tu as pris la coupe. Cette coupe contenait du vin, Seigneur, et tu l'as partagée avec tes disciples. C'était le symbole de ton sang. Le sang, comme tu le dis dans ta parole dans l'Ancien Testament, Seigneur, c'est le siège de la vie. Et tu ne voulais pas que tes enfants boivent et mangent le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Et tu voulais que l'homme respecte la vie. Seigneur, ce sang précieux qui était le tien, qui coulait dans tes veines, dans ce corps humain sans péché, ce sang, il a coulé. Seigneur, cette vie a été donnée pour notre salut. Et nous te disons merci. Et en ce jour-là, tu as pris cette coupe et tu as dit à tes disciples, buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je revienne. C'est pour cela, à cette heure, je vous dis à chacun d'entre vous, examinez votre cœur devant Dieu. Nous ne pouvons pas lire dans votre cœur, mais lui voit tout et connaît tout. Si vous vivez dans la rébellion, si vous vivez dans le péché, si vous vivez loin de Dieu, surtout ne touchez pas à ces emblèmes du corps de Christ qui a été martyrisé pour nous. Ne touchez pas parce que cette communion serait pour vous un mensonge et une malédiction. Que chacun se juge lui-même, honnêtement devant Dieu, et qu'il prenne de cette coupe, s'il juge dans son cœur qu'il est en ordre avec son Dieu. Que ceux qui prennent la communion se lèvent maintenant.
barbe. Chante au barbe. Chante au barbe.
Car il est glorieux.
Car il est glorieux.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.